From the Tabernacle on Temple Square.
C'est le Tabernacle de Temple Square à Salt Lake City. Vous assistez à la 177e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par le chœur du Tabernacle mormon. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Communications. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.
Gordon B. Hinckley, président
de l'Église. Président de l'Église dirigera cette session. Nous vous souhaitons la bienvenue cet après-midi à la deuxième session de la 177e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous saluons toutes les personnes qui sont ici présentes ou qui suivent la conférence au moyen de la télévision, de la radio ou de l'Internet, et aux nombreuses autres personnes qui sont réunies dans les centres de pieux dans diverses parties du monde où la réunion est diffusée par satellite. Cette session est diffusée depuis le tabernacle historique de Salt Lake City, qui a été merveilleusement refait à neuf et qui sera reconsacré durant cette session. Alors que nous sommes assis ici, nous avons de milliers de bonnes pensées qui reviennent. Des souvenirs comme nous avons tenu des réunions de toutes les sortes. La musique de cette session est interprétée par le chœur du tabernacle sous la direction de Craig Jessop et de Mac Wilberg, avec John Longhurst et Richard Elliott à l'orgue. Le chœur ouvrira ce service religieux en chantant « Sauveur d'Israël ». Ensuite, Lowell Snow, des 70, fera la prière d'ouverture. Il sera suivi par le chœur qui chantera « Venez, venez, sans craindre le devoir ». Nous entendrons ensuite Bud Packer, président suppléant du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi de frère Earl Tingey, de la présidence des 70, après quoi nous entendrons H. David Burton, évêque président de l'Église. Le chœur chantera ensuite « Nous aimons ta maison ».
Our Father, whom we love so dearly.
Notre Père que nous aimons tant.
In this great dispensation of gathering.
Dans cette grande dispensation de rassemblement, d'où tes enfants sont rassemblés à travers le monde. Et à ce moment où nous nous rassemblons tous ensemble pour venir, pour être enseignés par toi, nous sommes reconnaissants pour ce beau bâtiment, à savoir ce tabernacle qui a été construit par nos pères. Et pour cet endroit qui est devenu sacré par leur sacrifice, nous sommes privilégiés et honorés de suivre leurs traces. Père, nous nous sommes préparés aujourd'hui pour être enseignés. Nous avons préparé nos esprits et nos cœurs et avons prié pour que ce que nous désirons de plus, que ton esprit puisse être ici pour que nous soyons enveloppés où que nous soyons dans le monde. Que nos cœurs et nos esprits soient tournés vers toi. Et nous prions pour qu'un résultat de cette conférence, que nous comprendrons mieux et que nous serons édifiés et que nous nous réjouirons ensemble parce que nous avons été enseignés par ton esprit au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you. Il y a 46 ans, j'étais appelé comme assistant du Collège des 12. C'était la première fois que je me tenais à cette chaire. J'avais 37 ans. Je me suis retrouvé au milieu des prophètes et des apôtres vénérables et pleins de sagesse, dont nous révérons tous les noms, comme le proclame le cantique. J'ai eu le sentiment très vite de ne pas être à la hauteur. C'est vers cette époque que j'ai eu une expérience cruciale ici dans le tabernacle. Elle m'a donné de l'assurance et du courage. En ce temps-là, la conférence de la primaire avait lieu ici avant la conférence générale d'avril. Je suis entré par une des portes du sud au moment où un grand chœur d'enfants de la primaire chantait le chant d'ouverture. Lou Grosbeck, membre du bureau général de la primaire, dirigeait. Le chœur chantait, humblement, calmement, nous pensons à toi, Seigneur. Humblement, calmement, nous chantons avec douceur. Humblement, calmement, nous prions toujours. Que ton Saint-Esprit demeure en nos cœurs toujours et ce jour. Les enfants chantaient avec recueillement. L'organiste, qui avait bien compris que l'excellence n'attire pas l'attention sur elle-même, ne jouait pas en solo, tandis qu'il chantait. Il fusionnait habilement, de manière presque invisible, les jeunes voix en une mélodie pleine d'inspiration, de révélation. Cela a été le moment crucial. Il a fixé profondément et de manière permanente dans mon âme ce dont j'avais le plus besoin pour me soutenir dans les années qui allaient suivre. J'ai peut-être ressenti la même chose qu'Élie le prophète. Il a scellé les cieux contre le méchant roi Achab et s'est sauvé dans une caverne pour invoquer le Seigneur. Il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il se sortit et se tint à l'entrée de la caverne pour parler au Seigneur. J'ai ressenti un peu de ce que les Néphites ont dû ressentir quand le Seigneur leur est apparu. Ils entendirent une voix paraissant venir du ciel. Ils jetèrent les regards alentour, car ils ne comprenaient pas la voix qu'ils entendaient. Et ce n'était pas une voix dure, et ce n'est pas non plus une voix forte. Néanmoins, et malgré que ce fut une voix douce, elle perça ceux qui entendirent jusqu'au plus profond d'eux-mêmes, de sorte qu'il n'y eut pas une partie de leur corps qu'elle ne fit trembler. Oui, elle les perça jusqu'à l'âme même et fit brûler leur cœur. C'est ce murmure doux et léger qu'Élie et les Néphites ont entendu, que Joseph Smith, le prophète, a compris quand il a écrit « Oui, ainsi dit la petite voix douce, qui chuchote et pénètre tout. » À cet instant crucial, j'ai compris que le murmure doux et léger est ressenti plutôt qu'entendu. Si j'écoutais, tout irait bien pour moi dans mon ministère. Après cela, j'ai eu l'assurance que le Consolateur, le Saint-Esprit, est là pour tous ceux qui répondent à l'invitation de demander, de chercher, de frapper. J'ai su alors que tout irait bien pour moi. C'est ce qui s'est passé au fil des années. J'ai appris aussi quel pouvoir il peut y avoir dans la musique. Quand elle est interprétée avec recueillement, elle peut être apparentée à la révélation. Parfois, je pense, on ne peut la séparer de la voix du Seigneur, la voix discrète de l'Esprit. La musique digne, de quelque sorte qu'elle soit, a sa place. Il y a un nombre infini d'endroits où on peut l'entendre. Mais le tabernacle de Temple Square est différent de tous les autres. Depuis des générations, le chœur du tabernacle ouvre son émission hebdomadaire en chantant ces paroles écrites par William Phelps, élevons nos chants sacrés en ce sabbat rassemblé. Repos des cieux, repas des cieux, de remerciements à Dieu, nous chanterons en tout lieu. Il y a plus de 100 ans, Wilford Woodruff, qui avait alors 91 ans, a prononcé ce qui a sans doute été son dernier discours à cette chaire. Dans l'assistance, il y avait le Grand Richards, qui avait alors 12 ans. Son père, George F. Richards, ordonné plus tard apôtre, avait amené ses fils au tabernacle pour écouter les frères. Le Grand n'allait jamais oublier cette expérience. Pendant plus de 20 ans, j'ai été très proche de le Grand Richards. Il avait 96 ans, que ce message résonnait encore dans son cœur. Il ne pouvait pas se rappeler les paroles que le président Woodruff avait utilisées. Il n'aurait jamais pu oublier ce qu'il avait ressenti quand elles avaient été prononcées. Il m'est arrivé de sentir la présence des gens qui ont construit et ont préservé ce tabernacle. Par la musique et la parole, ceux qui nous ont précédés ont conservé la simplicité de l'Évangile et le témoignage de Jésus-Christ. Ce témoignage était la lumière qui a guidé leur vie. De grands événements qui ont façonné le destin de l'Église se sont produits dans ce tabernacle de Temple Square. Tous les présidents d'Église, excepté Joseph Smith et Brigham Young, ont été soutenus en assemblée solennelle dans ce tabernacle. Et de la même manière, le soutien est répété annuellement en conférence générale et reproduit dans chaque pieu, paroisse et branche, comme le demande la révélation. Le Seigneur a dit, « Il ne sera donné à aucun homme d'aller prêcher mon évangile ou d'édifier mon église s'il n'est ordonné par quelqu'un qui a l'autorité et dont l'église sait qu'il a l'autorité et qui a été dûment ordonné par les chefs de l'église. De cette façon, aucun inconnu ne peut venir parmi nous prétendant avoir l'autorité et essayer de nous égarer. » C'est ici qu'en 1880, la perle de Grand Prix a été acceptée comme l'un des ouvrages canoniques de l'Église. C'est ici aussi que deux révélations, les sections 137 et 138, ont été ajoutées aux doctrines et alliances. La section 137 rend compte d'une vision donnée à Joseph Smith dans le temple de Kirtland. Et la section 138 est une vision donnée à Joseph Smith au sujet de la visite du Sauveur aux esprits des morts. C'est ici qu'en 1979, après des années de préparation, la version de l'Église de la Bible anglaise du roi Jacques a été présentée à l'Assemblée. De nouvelles éditions du Livre de Mormon, de la Trinité Alliance et de la Perle de Grand Prix ont été annoncées ici à l'Église. À la conférence générale de 1908, Joseph F. Smith a lu la section 89 de la Trinité Alliance, la parole de sagesse. Ensuite, lui et ses deux conseillers, le président des 12, ont tous parlé du même sujet, la parole de sagesse. Puis, il y a eu un vote unanime pour l'accepter comme faisant force de loi parmi les membres de l'Église. Cette révélation commence ainsi. En conséquence des mauvaises intentions et des desseins qui existent et existeront dans les derniers jours, dans le cœur des conspirateurs, je vous avertis et je vous préviens, en vous donnant par révélation cette parole de sagesse. C'est un bouclier et une protection, en particulier pour nos jeunes. Elle devient une partie de toutes les armes de Dieu promises dans la Révélation pour les protéger contre les traits enflammés des méchants. L'Église et ses membres ont toujours été, sont maintenant et seront toujours assiégés par l'adversaire. Il est capable de couvrir et même d'étouffer le murmure doux et léger par une musique bruyante et dissonante, inondée de paroles qu'on ne peut pas comprendre, ou pire encore, de paroles qu'on peut comprendre. Il nous égare soigneusement avec chaque nouvelle tentation qu'il peut concevoir. C'est ici que par révélation, le Seigneur a clarifié l'ordre de la prêtrise. Cela a ouvert les portes pour l'accomplissement du commandement du Sauveur, de porter l'Évangile à toutes les nations, tribus, langues et peuples, et l'établissement de son Église parmi eux. C'est ici que le Livre de Mormon a reçu le sous-titre « Un témoignage de Jésus-Christ ». Dorénavant, quiconque ouvre le livre sera par le titre même ce qu'il lui propose. Les enseignements, les discours, la musique, les sentiments et l'esprit dans ce bâtiment sacré passent sans être diminués jusqu'au centre de conférence tout proche, où ils sont entendus par des dizaines de milliers de personnes, interprétés en des dizaines de langues et envoyés aux assemblées à travers le monde. Mieux encore, cet esprit entre dans les maisons de millions et de millions de saints des derniers jours. Dans les maisons, les parents prient pour le bien-être de leurs enfants. Les hommes et les femmes, et comme le livre de Mormon l'a promis, même les petits-enfants peuvent recevoir le témoignage de Jésus-Christ et du rétablissement de son Évangile. Ce tabernacle de Temple Square est une maison de prière, une maison de jeûne, une maison de foi, une maison de gloire et de Dieu, sa maison. Ceux qui sont appelés pour parler ou se produire, ou prononcer des paroles, interpréter de la musique ou présenter de la culture, sont tenus de présenter quelque chose de digne. Rechercher les louanges des hommes, nous avertissent les Écritures, c'est se laisser entraîner soigneusement, loin du seul chemin sûr à suivre dans la vie. Les Écritures nous annoncent clairement ce qui s'ensuit quand nous aspirons aux honneurs des hommes. Ce qui compte, ce n'est pas tellement ce qu'on entend dans le discours, mais ce qu'on ressent. Le Saint-Esprit peut confirmer à tous ceux qui tombent sous cette influence que les messages sont vrais, que c'est l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Le tabernacle se trouve ici, à côté du temple, comme une ancre, et est devenu un symbole du rétablissement. Il a été construit par des gens très pauvres et tout à fait ordinaires. Il est connu maintenant dans le monde entier. Le chœur du tabernacle, qui tire son nom de ce bâtiment, a été une voix de l'Église depuis de nombreuses années. Puisse-t-il ne jamais s'écarter ou se laisser écarter de la mission essentielle qui est la sienne depuis des générations. Génération après génération, le chœur a ouvert et clos chacune de ses émissions par un message inspirant, riche de principes et ancré dans la doctrine du rétablissement, commençant par « Élevons nos chants sacrés » et finissant par « Comme à l'aube la rosée ». Le tabernacle est dans le monde l'un des grands centres de musique et de culture dignes. Mais surtout, il est une bannière du rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ. Ce témoignage simple a été gravé en moi de manière profonde et permanente, ici, dans ce bâtiment, par ces enfants de la primaire qui chantaient de manière respectueuse et révélatrice. Que Dieu bénisse ce bâtiment sacré et tout ce qui s'y passe. Comme nous sommes reconnaissants qu'il ait été rénové et réaménagé sans perdre son caractère sacré. Parley P. Pratt, ancien membre du Collège des 12 apôtres, a lu ces mots de la section 121 de Doctrine et Alliance. Que tes entrailles soient également remplies de charité envers tous les hommes et envers les frères dans la foi, et que la vertu orne sans cesse tes pensées. Alors ton assurance viendra grandir la présence de Dieu, Et la doctrine de la prêtrise se distillera sur ton âme comme la rosée des cieux. Le Saint-Esprit sera ton compagnon constant et ton sceptre, un sceptre immuable de justice et de vérité. Et ta domination sera une domination éternelle. Et sans moyen de contrainte, elle affluera vers toi pour toujours et à jamais. Profondément ému, il a tourné ses pensées vers un cantique qui est en réalité une prière. Pendant de nombreuses années, il a été choisi par le chœur pour clore son émission hebdomadaire. Comme à l'aube de la rosée, rafraîchit la terre, enfin, l'évangile dans ma vie vient porter l'Esprit divin. Ô Seigneur, vois tes fidèles accomplir ta sainte loi. Verse d'en haut la rosée de la vie et de la foi. Notre cri vers toi parvienne, ton esprit soit répandu, et chaque âme sera tienne. Bénira ton nom, Jésus. Que nos cris s'élèvent vers toi, que ton esprit soit répandu, que chaque âme soit tienne, et bénisse ton nom, Jésus. J'ajoute mon témoignage, Jésus est le Christ. C'est sa maison, en ce jour sacré de consécration, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Mes frères et sœurs, debout à la chair de ce tabernacle, ancien mais neuf, je me sens tout petit en pensant aux événements historiques qui se sont déroulés. Un pied dans le passé, l'autre dans l'avenir. Et je remercie les prophètes et les apôtres pionniers et modernes qui ont eu et ont encore la vision de construire et de prolonger dans l'avenir cet édifice remarquable. Je voudrais parler de deux de ces hommes de vision, Brigham Young et son successeur actuel. Brigham Young a été le deuxième prophète de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Il a dirigé l'Église pendant 33 ans. Il a construit ce tabernacle et a présidé à sa consécration pendant la conférence générale d'octobre 1875, il y a plus de 131 ans. Ses autres réalisations ont été nombreuses, et je ne peux en citer que quelques-unes. C'était un pionnier, c'est-à-dire quelqu'un qui ouvre et prépare la voie que d'autres suivront. Un écrivain a dit de lui, il a conduit un groupe appauvri et en haillons, dépourvu de quasiment tout bien matériel dans un territoire inconnu. Ses détracteurs et biographes ont remarqué que c'était un homme exceptionnel parmi les dirigeants de l'histoire moderne, car lui seul, sans soutien politique ni financier, a établi à partir de rien une société d'ordre et industrieuse dans le désert, n'ayant pour autorité que la prêtrise et la force spirituelle avec laquelle il donnait ses enseignements. Par ses exhortations et ses instructions constantes, il a uni son peuple et lui a donné l'inspiration nécessaire pour s'acquitter de la tâche confiée par Dieu d'édifier son royaume sur la terre. Lorsque Brigham Young est arrivé dans la vallée du Grand Lac Salé, il a déclaré « C'est bien là ». Il dira plus tard, Dieu m'a montré que c'est l'endroit où établir son peuple, que c'est ici qu'il prospérera. Dieu tempérera les éléments pour le bien des saints. Il empêchera le gel et la stérilité du sol, et la terre sera féconde. Il construira une ville et un temple du Très-Haut en ce lieu. Nous pouvons tous témoigner aujourd'hui de la véracité de cette prophétie. Le désert et les vallées des montagnes rocheuses sont une terre fertile et féconde, de promesses et de prophéties. Il a construit les temples. Il a lancé la construction du temple de Salt Lake City, qui a pris 40 ans, mais également celle des temples de Mantai et de Logan. Il a consacré le temple de Saint George 4 mois et demi avant sa mort. Il a été l'un des plus grands colons d'Amérique. À sa mort, près de 400 colonies avaient été établies. Il a mis en place le Fonds perpétuel d'immigration pour venir en aide aux personnes dans le besoin, soutenant celles aux moyens limités pour émigrer d'Europe. Il a fondé des universités, l'université du Deseret, aujourd'hui l'université d'Utah. Le Latter-day Saints College est devenu le LDS Business College. Et bien sûr, il a aussi fondé l'université Brigham Young. Il aimait l'Église et ses membres. Brigham Young avait une manière qui lui était propre de parler de l'Église. Dieu est à la barre. C'est le bateau puissant de Sion. Si vous y restez, l'honorez et veillez à y être bien, vous n'avez besoin de vous soucier de rien. Dieu est au gouvernail et il nous ramènera à bon port. Tout ce dont nous devons nous soucier, c'est de nous-mêmes et de veiller à faire le bien. Manœuvrons vaillamment le bateau, nous tenons tous fidèlement et fermement à notre poste, et il surmontera toutes les tempêtes et nous conduira sains et saufs au port du bonheur céleste. Il aimait les jeunes de l'Église, comme le prouve l'expérience de Heber G. Grant. 9 jours après la naissance d'Heber, son père, Jebediah Grant, qui était deuxième conseiller du président Young, est mort. Pendant les 21 ans qui ont suivi, Brigham Young a accordé beaucoup d'intérêt au jeune Heber G. Grant. Heber G. Grant a écrit « Je me sentais presque aussi chez moi, chez le président Young, que chez ma propre mère. Si j'avais faim, je me sentais aussi libre d'aller demander quelque chose à manger dans une maison que dans l'autre. Je me suis agenouillé maintes et maintes fois chez lui, dans la Lion House, pour les prières familiales, quand j'étais enfant et jeune homme. » Il aimait Joseph Smith, le prophète. Voici ce qu'il a dit à ce sujet. Ce que j'ai reçu du Seigneur, je l'ai reçu par Joseph Smith. J'aime sa doctrine. J'ai envie de crier « Alléluia » toutes les fois où je pense que j'ai connu Joseph Smith. Combien j'aime Brigham Young. Son successeur de nos jours est le président Hinckley, qui est également un prophète aimé et vénéré. Une très belle peinture le montre regardant vers l'avenir, avec une série de plans d'architecture de temples devant lui. En arrière-plan se trouve un portrait de Brigham Young, donnant l'impression qu'il regarde par-dessus l'épaule du président Hinckley. Le portrait de Brigham Young figurant dans cette peinture est accroché dans le bureau du président Hinckley. Et en a souvent parlé. Dans une conférence générale récente, il a dit « À la fin d'une journée particulièrement difficile, j'ai regardé un portrait de Brigham Young accroché à mon mur. J'ai demandé « Frère Brigham, qu'est-ce que nous devons faire ?» Il m'a semblé le voir sourire légèrement et en train de dire « De mon temps, j'avais suffisamment de problèmes. Ne me demande pas ce que tu dois faire. » C'est ta responsabilité. Demande au Seigneur, en fait, c'est son œuvre. Ces deux grands prophètes, les présidents Young et Hinckley, sont liés par leur vision prophétique découlant du fait qu'ils ont vu l'avenir et eu la foi de transformer cette vision en une réalité présente. Le président Hinckley, comme Brigham Young, est un pionnier et un bâtisseur. Il a voyagé dans le monde, a rencontré des rois, des reines et des présidents. Il a été interviewé par les médias du monde et continue de faire sortir l'Église de l'obscurité. Plus de 75 temples ont été construits au cours des 12 dernières années et il a eu l'inspiration de construire le majestueux centre de conférence. Le président Hinckley, comme Brigham Young, répand l'Évangile et accorde de la valeur à l'instruction. La population de l'Église approche maintenant les 13 millions de membres, répartis dans 176 pays et territoires. Il y a plus de 53 000 missionnaires dans le monde. Cette conférence est interprétée dans 90 langues. Le président Hinckley continue de soutenir les universités de l'Église et l'enseignement dans l'Église. Plus de 26 000 membres bénéficient maintenant du fonds perpétuel d'études. Le président Hinckley, comme Brigham Young, aime les jeunes et tous les membres de l'Église. Les jeunes de l'Église en particulier s'adressent au président Hinckley pour recevoir des conseils prophétiques. Le président Hinckley aime aussi Joseph Smith, le prophète. Il y a quelques années, il a dit « J'adore le Dieu des cieux, qui est mon Père éternel. J'adore le Seigneur Jésus-Christ, qui est mon Sauveur et mon Rédempteur. » Je n'adore pas Joseph Smith, le prophète, mais je révère et aime ce grand voyant par l'intermédiaire de qui le miracle de l'Évangile a été rétabli. Je deviens vieux à présent, et je sais que selon le cours naturel des choses, je franchirai sous peu le seuil pour me tenir devant mon Créateur et mon Seigneur et rendre compte de ma vie. Et j'espère avoir l'occasion d'embrasser Joseph Smith le prophète, de le remercier et de lui exprimer mon amour. Je rends humblement témoignage que les présidents Young et Hinckley sont tous deux des prophètes qui ont dirigé l'Église par inspiration et révélation. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Le président Hinckley a dit, lors d'une conférence de presse donnée en octobre 2004, « Je respecte ce bâtiment, j'aime ce bâtiment, j'honore ce bâtiment, je veux qu'il soit préservé, je veux que le vieux tabernacle originel, ses structures faibles renforcées, soient fortifiées et que sa beauté naturelle et merveilleuse soit préservée. Ne faites rien que vous ne devriez pas faire, mais quoi que vous fassiez, faites-le bien et faites-le de manière juste. » C'est en ces termes émouvants mais intimidants que la mission a été donnée de conserver, renforcer et rénover le vieux tabernacle originel de Salt Lake City, revitalisé et prêt pour une nouvelle longue période de service distingué. Aujourd'hui, cher Président, nous présentons cet auguste bâtiment, paré d'une toute nouvelle finition, solidement charpenté dans son élégance historique, bien qu'un peu plus confortable. L'épiscopat président et plus de 2000 artisans sont fiers de vous rendre le vieux tabernacle originel à vous et à l'Église avec une garantie de 100 ans. La demande du président Hinckley de remettre en état le vieux tabernacle originel est devenue la norme quand il s'agit de prendre des décisions difficiles en matière d'architecture et de construction. L'expression a été utilisée pour exprimer l'essence et l'objectif du projet. Elle a été l'équivalent de l'étendard de la liberté du capitaine Moroni, en ce sens qu'elle a effectivement été hissée sur toutes les tours et dressée partout où c'était nécessaire. Si ces vieux murs pouvaient parler, ils se joindraient à nous pour remercier sincèrement FFKR Architects, Jacobson Construction Company, l'équipe du bureau d'études de l'Église et les nombreuses personnes dont les talents ont assuré la réussite de cette entreprise complexe. L'un des chefs d'équipe a fait cette réflexion. Lors de nos consultations, le Seigneur a pu nous donner des capacités qui dépassaient nos moyens naturels. Ceux qui étaient chargés du chantier ont éprouvé un grand respect pour la beauté du tabernacle, pour ses constructeurs originels et pour la qualité de leur travail. Cela les a émerveillés que les paroles des prophètes, voyants et révélateurs modernes soient allées au monde à partir de cette tribune. Je suis certain que si ces vieux murs pouvaient parler, ils exprimeraient leur satisfaction pour leur nouveau fondement ferme. Ces vieux murs seraient enchantés de leur nouvelle ceinture en acier qui leur permet de se dresser haut et droit. Ces vieux murs diraient merci de ce que 14 couches de peinture ont été grattées du plafond et remplacées par un lissage et une belle couche toute neuve. Ces vieux murs exprimeraient leur gratitude pour la protection et la beauté d'un toit en aluminium flambant neuf, et comme les bancs, seraient heureux de voir le sourire des visiteurs découvrant les sièges légèrement modifiés et quelques centimètres de plus pour les genoux. Ces vieux murs apprécieraient la nouvelle installation conçue pour mieux accueillir les accents d'une musique inspirante. On ne peut qu'imaginer ce que ces vieux murs pourraient se rappeler des nombreux sermons qu'ils ont soigneusement écoutés au cours des années. Ces vieux murs, s'ils pouvaient parler, crieraient. Nous étions là quand Joseph F. Smith s'est levé après une longue maladie pour assister à une session de la conférence générale en octobre 1918. À la session d'ouverture, il a dit d'une voix remplie d'émotion, « Je ne veux pas, je n'ose pas tenter de parler des nombreuses choses qui occupent ce matin mon esprit. Et je remettrai à plus tard, si le Seigneur le veut bien, ma tentative de vous dire certaines des choses que j'ai à l'esprit et qui demeurent dans mon cœur. » Il a continué. Je n'ai pas vécu seul pendant ces 5 mois. Je suis demeuré dans l'esprit de la prière, de la supplication, de la foi et de la détermination. Et j'ai eu continuellement une communication avec l'Esprit du Seigneur. Nous avons appris plus tard que la veille de la conférence, le président Smith avait reçu une manifestation constituant la vision de la rédemption des morts, qui est devenue plus tard la section 138 des Doctrines et Alliances. Si ces vieux murs pouvaient parler, ils nous rappelleraient les jours sombres de la Grande Dépression. Il se rappellerait la conférence générale d'avril 1936, quand Heber J. Grant a annoncé que l'Église allait inaugurer un plan de sécurité appelé plus tard « plan d'entraide de l'Église ». 6 mois plus tard, il a expliqué « Notre but principal était d'établir, dans la mesure du possible, un système dans lequel la malédiction de l'oisiveté serait éliminée. » Les mots des allocations gouvernementales abolies et l'indépendance, l'industrie, l'économie et le respect de soi réinstaurés parmi notre peuple. Le but de l'Église est d'aider les gens à se prendre en charge. Le travail doit être remis à l'honneur comme principe directeur dans la vie des membres de notre Église. En octobre 1964, à la demande de David O. McKay, Harold Bealey a parlé de la responsabilité parentale. Ces vieux murs se rappellent que Frère Lee a dit qu'il allait lire une lettre de 1915 adressée à l'Église, signée par la première présidence. Avant de commencer, il a dit, je crois que c'est quelque chose du genre de ce que Mark Twain a dit à propos du temps. Nous parlons beaucoup du temps, mais nous ne faisons rien pour cela. Frère Lee a alors lu cette lettre vieille de 50 ans. Nous conseillons et recommandons l'instauration dans toute l'Église d'une soirée familiale où père et mère peuvent réunir chez eux leurs fils et leurs filles autour d'eux et leur enseigner la parole du Seigneur. Nous promettons que si les saints obéissent à cette recommandation, de grandes bénédictions résulteront. L'amour au foyer et l'obéissance aux parents augmenteront. La foi grandira dans le cœur des jeunes d'Israël et ils acquerront le pouvoir de combattre les influences et les tentations mauvaises qui les assaillent. Ces vieux murs se rappellent le profond silence qui s'est fait dans le tabernacle quand, en avril 1985, on a annoncé que Bruce R. McConkie parlerait à la conférence générale. Ces vieux murs ont senti un profond respect envahir l'assemblée quand Frère McConkie a terminé son discours par ces paroles électrisantes. Et maintenant, en ce qui concerne cette expiation parfaite, accomplie par l'effusion du sang de Dieu, je témoigne qu'elle a eu lieu à Gethsémané et au Golgotha. Et pour ce qui est de Jésus-Christ, je témoigne qu'il est le Fils du Dieu vivant et qu'il a été crucifié pour les péchés du monde. Il est notre Seigneur, notre Dieu et notre Roi. Cela, je le sais par moi-même, indépendamment de qui que ce soit. Je suis l'un de ses témoins, et un jour prochain, je sentirai les marques des clous dans ses mains et dans ses pieds, et je mouillerai ses pieds de mes larmes. Mais je ne saurai pas davantage, alors que maintenant qu'il est le Fils Tout-Puissant de Dieu, qu'il est notre Sauveur et notre Rédempteur, et que le salut est rendu possible par son sang expiatoire et d'aucune autre manière. En 1995, le président Hinckley a dit aux femmes de l'Église, avec tous les raisonnements spécieux qui sont présentés comme des vérités, avec toutes les tromperies à propos des principes, avec toutes les incitations à nous laisser gagner peu à peu par la souillure du monde, nous nous sentons poussés à lancer un avertissement. Il s'est alors mis à lire. Nous, première présidence et conseil des douze apôtres de l'Église de Jésus-Christ et saints des derniers jours, déclarons solennellement que le mariage de l'homme et de la femme est ordonné de Dieu et que la famille est essentielle au plan du Créateur pour la destinée éternelle de ses enfants. Le mari et la femme ont la responsabilité solennelle de s'aimer et de se chérir et d'aimer et de chérir leurs enfants. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Les parents ont le devoir sacré d'élever leurs enfants dans l'amour et la droiture, de subvenir à leurs besoins physiques et spirituels, de leur apprendre à s'aimer et à se servir les uns les autres, à observer les commandements de Dieu et à obéir aux lois où qu'ils vivent. Les maris et les femmes, les mères et les pères, seront responsables devant Dieu de la manière dont ils se seront acquittés de ces obligations. Je suis reconnaissant pour ce bâtiment extraordinaire. C'est un monument sacré de notre passé et une bannière magnifique d'espoir pour l'avenir. Je témoigne de la divinité de notre Père Céleste et du grand amour de notre Sauveur pour chacun de nous. Nous sommes grandement bénis d'être dirigés par un prophète de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter « Quel fondement ferme ». Après le cantique, nous entendrons Bonnie Parkin, qui a été relevée aujourd'hui de son appel de présidente générale de la Société de secours. Après son discours, Marlon K. Jensen, des 70, nous adressera la parole. Ensuite, nous entendrons Frère Faust, deuxième conseiller dans la première présidence. Il sera suivi par Thomas S. Munson, premier conseiller dans la première présidence. Et après le discours de Frère Munson, le chœur chantera « This house we dedicate to thee ». Nous le lèverons et chanterons « Quel fondement ferme ».
This is the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Cet après-midi, j'ai l'honneur de représenter les dirigeants de la Société de secours qui, ici dans ce tabernacle, ont parlé de la doctrine du royaume, ont souligné l'importance du rôle de la femme dans le foyer et la famille, se sont mutuellement appelés au service charitable et ont rappelé à leurs sœurs les joies qui découlent d'une vie juste. Depuis ce pupitre, en 1870, Eliza Snow a posé à des milliers de femmes une question que j'aimerais reposer aujourd'hui. Connaissez-vous un endroit sur la terre où une femme ait plus de liberté, où elle ait des bénédictions aussi grandes et aussi glorieuses qu'elle en a ici en tant que saint des derniers jours? Je témoigne que les femmes de l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours, ont des bénédictions grandes et glorieuses. Je vais commencer par une histoire émouvante. Les membres d'une famille traversaient une période difficile. Il leur était difficile de ne pas se concentrer sur leurs difficultés. La mère a écrit « Notre monde s'était complètement écroulé. Alors nous avons demandé à notre Père Céleste de nous guider. Nous nous sommes presque immédiatement rendus compte que nous étions entourés de bonté et que nous étions réconfortés de tous côtés. En famille, nous avons commencé à nous exprimer mutuellement notre reconnaissance ainsi qu'au Seigneur, quotidiennement. Un ami proche m'a fait remarquer que le panier de bénédictions de notre famille débordait. De cette conversation est née une sorte de jeu que mes enfants et moi aimions de plus en plus. Avant la prière familiale, chaque soir, nous parlions de notre journée. Puis chacun faisait part des nombreuses bénédictions qui avaient été ajoutées à notre panier de bénédictions. Plus nous exprimions de reconnaissance, plus il y avait de choses pour lesquelles être reconnaissant. Nous avons profondément ressenti l'amour du Seigneur, tandis que les occasions de progresser se présentaient. Qu'est-ce que l'ajout d'un panier de bénédictions apporterait à votre famille? La reconnaissance requiert d'en être conscient et de faire des efforts, non seulement pour la ressentir, mais pour l'exprimer. Nous n'avons souvent pas conscience de l'intervention de la main du Seigneur. Nous murmurons, nous nous plaignons, nous résistons, nous critiquons, nous sommes si souvent ingrats. Dans le livre de Mormon, nous apprenons que les gens qui murmurent ne connaissent pas la manière d'agir du Dieu qui les a créés. Le Seigneur nous recommande de ne pas murmurer, parce qu'il est alors difficile à l'esprit d'agir en nous. La reconnaissance est un principe porteur de l'esprit. Elle ouvre l'esprit à un univers rempli de la richesse d'un Dieu vivant. Grâce à elle, nous devenons spirituellement conscients de la merveille des choses les plus petites, qui nous réjouissent le cœur par leur message d'amour de Dieu. Cette conscience reconnaissante élève notre sensibilité vers la direction divine. Quand nous exprimons de la reconnaissance, nous pouvons être remplis de l'esprit, liés aux personnes qui nous entourent et au Seigneur. La reconnaissance inspire le bonheur et apporte une influence divine. Amulek a dit « Vivez quotidiennement dans les actions de grâce pour les miséricordes et les nombreuses bénédictions qu'il nous accorde. » Les miséricordes et les bénédictions se manifestent sous différentes formes, parfois de choses difficiles. Pourtant, le Seigneur a dit, « Tu remercieras le Seigneur, ton Dieu, en toutes choses. » Toutes choses signifient les bonnes et les choses difficiles, pas seulement certaines choses. Il nous a commandé d'être reconnaissants parce qu'il sait que la reconnaissance nous rendra heureux. C'est une autre preuve de son amour. Que ressentez-vous quand quelqu'un vous exprime de la reconnaissance? Un dimanche, je me suis assise à côté d'une sœur à la Société de Secours et j'ai fait un peu plus connaissance avec elle. Quelques jours après, j'ai reçu un courriel disant « Merci de vous être assise à côté de ma fille à la Société de Secours. Vous avez mis votre bras autour de ses épaules. Vous ne saurez jamais tout ce que cela a signifié pour elle et pour moi. » Le message de cette mère m'a surprise et m'a rendue heureuse. Que ressentez-vous quand vous exprimez de la reconnaissance à quelqu'un? J'aimerais exprimer ma reconnaissance à quelqu'un qui se soucie de mes petits-enfants. Il y a quelques mois, alors que j'étais au Texas, j'ai demandé à Thomas, qui a 6 ans, de me parler de son évêque. Il m'a dit, « Oh, grand-mère, tu vas le reconnaître. Il porte un costume sombre, une chemise blanche comme papa. Il a des chaussures brillantes et une cravate rouge. Il porte des lunettes et il sourit tout le temps. » J'ai reconnu l'évêque de Thomas dès que je l'ai vu. Mon cœur était rempli de reconnaissance pour lui. Merci, frère Goodman. Et merci à vous tous, évêques formidables. Le chapitre 17 de Luc raconte ce qui est arrivé au Sauveur quand il a guéri 10 lépreux. Si vous vous souvenez, un seul des lépreux guéris est revenu exprimer ses remerciements. N'est-il pas intéressant que le Seigneur n'ait pas dit « Ta reconnaissance t'a sauvé », mais il a dit « Ta foi t'a sauvé ». L'expression de reconnaissance du lépreux a été reconnue par le Sauveur comme une expression de sa foi. Quand nous prions et exprimons notre reconnaissance à un Père céleste aimant, mais que nous ne voyons pas, nous exprimons aussi notre foi en lui. La gratitude est une douce reconnaissance de la main du Seigneur dans notre vie. C'est une expression de notre foi. En 1832, le Seigneur a vu le besoin de préparer l'Église à des épreuves à venir. Les épreuves sont effrayantes. Et pourtant, le Seigneur a dit, « Prenez courage, car je vous guiderai le long du chemin. Le royaume est à vous, ses bénédictions sont à vous, et les richesses de l'éternité sont à vous. Et celui qui reçoit tout avec gratitude sera rendu glorieux. » Le genre de gratitude qui permet de recevoir même les épreuves avec action de grâce requiert un cœur brisé et un esprit contrit. L'humilité d'accepter ce qui ne peut pas être changé, la volonté de tout remettre entre les mains du Seigneur, même lorsque nous ne comprenons pas, la reconnaissance pour les possibilités cachées, pas encore révélées. Alors vient un sentiment de paix. Quand avez-vous, pour la dernière fois, remercié le Seigneur pour une épreuve ou une difficulté? L'adversité nous oblige à nous mettre à genoux. Est-ce que la reconnaissance pour l'adversité le fait aussi? David O'Mackay a dit, nous trouvons, dans la froideur amère de l'adversité, la véritable mise à l'épreuve de notre reconnaissance, qui vient du cœur de la vie, triste ou joyeuse. Mes sœurs fidèles de l'Église, je vous remercie de la manière dont vous manifestez l'amour du Seigneur par votre service, le soin que vous prenez des familles à la mort d'un être cher, votre attention et vos soins en tant qu'instructrice visiteuse, votre volonté d'édifier le témoignage d'enfants en servant à la primaire, le temps que vous consacrez à préparer des jeunes filles à leur rôle de mère. Merci de votre dévouement. J'ai vu l'amour du Seigneur dans votre fidélité. J'ai eu la bénédiction de servir parmi vous. Mon cœur déborde de reconnaissance et d'amour pour chacune de vous. Je suis aussi profondément reconnaissante aux frères de la prêtrise avec lesquels j'ai servi. Ma reconnaissance la plus profonde va à mon Sauveur, Fils obéissant qui a fait tout ce que son Père a demandé et qui a expié pour chacun de nous. En me souvenant de lui et en le remerciant de sa bonté, je désire être comme lui. Puissions-nous avoir la bénédiction de ressentir l'amour du Seigneur dans notre vie chaque jour. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
I feel honored to follow Sister Parkin.
Je me sens très honoré de suivre Sœur Parkins. Son service et ses enseignements ainsi que ses conseils nous ont tous bénis. Vers cette heure-ci, il y a 18 ans et demi, j'étais près de cette chaire, en train d'attendre que l'Assemblée finisse de chanter pour m'avancer et prononcer mon premier discours de conférence générale. Il devait être évident que j'avais peur. Elton Perry, qui était derrière moi, s'est penché en avant et avec l'esprit positif et l'enthousiasme qui le caractérise, a murmuré à mon oreille, « Détendez-vous, nous n'avons perdu personne à cette chaire depuis des années. » Ces paroles d'encouragement et les quelques minutes qui ont suivi pendant lesquelles je me suis adressé pour la première fois à un auditoire mondial de ces derniers jours sont très chères à ma mémoire. Comme vous tous, je suis constamment en train de me constituer des souvenirs qui, quand je me les rappelle, constituent une partie très utile et souvent agréable de ma vie consciente. Et malgré les résolutions que j'ai prises quand j'étais jeune, de ne jamais ennuyer les autres avec mes souvenirs quand je vieillirai, je suis maintenant très heureux de faire part de mes souvenirs chaque fois que c'est possible. Mais aujourd'hui, je vais parler d'un rôle plus profond de la mémoire et des souvenirs dans l'Évangile de Jésus-Christ que le souvenir passif et le plaisir d'évoquer des informations. Si nous faisons bien attention à l'utilisation du mot « se souvenir » dans les Écritures, nous nous rendrons compte que le fait de se souvenir tel que Dieu le veut est un principe fondamental et salvateur de l'Évangile. Il en est ainsi parce que les exhortations prophétiques de se rappeler sont souvent des appels à agir, à écouter, à voir, à obéir, à faire et se repentir.
Le roi Benjamin a appelé son peuple à un tel engagement. Et finalement, je ne peux pas vous dire toutes les choses par lesquelles vous pouvez commettre le péché, car il y a divers voies et moyens, oui, tant que je ne peux les énumérer. Mais il y a une chose que je peux vous dire, c'est que si vous ne veillez pas à vous-même, et à vos pensées, à vos paroles, et à vos actes, et n'observez pas les commandements de Dieu, et ne continuez pas dans la foi de ce que vous avez entendu concernant la venue de notre Seigneur jusqu'à la fin de votre vie, vous périrez. Et maintenant, ô homme, plaide le roi Benjamin, souviens-toi, et ne péris pas. Si nous comprenons le rôle actif que le souvenir doit jouer dans notre vie, de quoi devrions-nous nous souvenir ? Répond à cette question, assemblés comme nous le sommes aujourd'hui, pour nous rappeler, consacrer à nouveau ce tabernacle historique, je suggère que l'histoire de l'Église et de son peuple mérite que nous la rappelions. Les Écritures accordent une grande priorité à l'histoire de l'Église. En effet, les Écritures sont pour une grande part l'histoire de l'Église. Le 6 avril 1830, jour de l'organisation de l'Église, Dieu a commandé à Joseph Smith, « Voici, un registre sera tenu parmi vous. » Joseph a réagi à ce commandement en nommant Oliver Cowdery, deuxième ancien de l'Église et son premier assistant, premier historien de l'Église. Nous tenons des annales pour nous aider à nous souvenir. Et le récit de la naissance et de la croissance de l'Église a été tenu depuis le début de l'époque de Joseph Smith jusqu'à aujourd'hui. Ce récit historique extraordinaire nous rappelle que Dieu a rouvert les cieux et révélé des vérités qui appellent notre génération à l'action. Tout ce qui a été collecté, conservé et écrit par les historiens, pendant ces nombreuses années, rien n'illustre davantage l'importance et le pouvoir de l'histoire de l'Église que le simple récit et honnête qu'a fait Joseph Smith de l'apparition qu'il a eue de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, et que nos livres d'histoire appellent maintenant la première vision. En des mots que des générations de missionnaires ont appris par cœur et annoncés aux personnes qui recherchent la vérité dans le monde entier, Joseph décrit la manière miraculeuse dont il a reçu une réponse à sa question quant à la véritable Église. « Je vis exactement au-dessus de ma tête une colonne de lumière plus brillante que le soleil, descendre peu à peu jusqu'à tomber sur moi. Quand la lumière se posa sur moi, je vis deux personnages dont l'éclat et la gloire défient toute description, et qui se tenaient au-dessus de moi dans les airs. L'un d'eux me parla, m'appelant par mon nom, et dit en me montrant l'autre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoute-le. » Et Joseph l'a bien écouté. Et des millions de gens ont entendu, ont lu et cru son récit et adopté l'évangile de Jésus-Christ qu'il a contribué à rétablir. Je crois Joseph Smith et je témoigne qu'il était un véritable prophète de Dieu. Le souvenir de son expérience de la première vision me pousse chaque fois à m'engager et à agir davantage. Personne n'apprécie davantage la valeur de l'histoire de l'Église que Gordon Binkley, le président de l'Église. Nous aimons son délicieux sens de l'humour, mais il a un sens de l'histoire tout aussi vif. Ses écrits et ses discours sont ponctués d'histoires et d'anecdotes inspirantes de notre passé. Étant notre prophète actuel, il souligne délibérément le passé et l'avenir pour nous aider à réussir le présent. Grâce à ses enseignements, nous apercevons que le souvenir nous permet de voir la main de Dieu dans notre passé, tout comme la prophétie et la foi nous assurent de la présence de la main de Dieu dans notre avenir. Le président Hinckley nous aide à nous rappeler que les membres des premiers temps de l'Église affrontaient leurs difficultés pour que nous puissions, par la grâce de Dieu, affronter les nôtres plus fidèlement. Si nous le gardons vivant, notre passé nous relie aux gens, aux lieux et aux événements qui constituent notre héritage spirituel, et ainsi il nous motive à plus de service, de foi et de bonté. De manière exemplaire, il nous a fait aussi ouvertement part de ses histoires personnelles et familiales. Bon nombre de missionnaires découragés ont été réconfortés de savoir qu'au début de sa mission, le président Hinckley a été lui aussi découragé et l'a aussi admis à son père. Il a même fait part courageusement de la brève réponse de son père. « Cher Gordon, j'ai reçu ta dernière lettre. Je n'ai qu'une suggestion à te faire. Oublie-toi et consacre-toi à l'œuvre. » Plus de 70 ans plus tard, nous sommes tous témoins du sérieux avec lequel le président Hinckley a pris ce conseil à cœur. Sa personnalité solide et sa sagesse prophétique démontrent de manière persuasive les bienfaits que nous apporte le rappel de l'histoire de l'Église et de notre histoire personnelle. Et bien sûr, beaucoup plus à dire sa mémoire et le souvenir dans l'Évangile de Jésus-Christ. Nous parlons souvent de nous souvenir de nos alliances sacrées et des commandements de Dieu, et de nous rappeler et d'accomplir les ordonnances salvatrices pour nos ancêtres décédés. Surtout, nous parlons de la nécessité de nous souvenir de notre Sauveur Jésus-Christ. Et pas seulement quand c'est commode, mais toujours, comme il le demande. Nous témoignons toujours que nous nous souvenons de lui quand nous prenons la Sainte Cène. En retour, il nous est promis d'avoir toujours son Esprit avec nous. Il est intéressant de remarquer que c'est le même esprit que celui envoyé par notre Père Céleste pour nous rappeler tout. Ainsi, en recevant dignement la Sainte Cène, nous recevons par l'Esprit la bénédiction d'entrer dans un cercle merveilleux et bénéfique de souvenirs, en revenant continuellement par la pensée et la dévotion au Christ et à son sacrifice expiatoire. L'objectif suprême de tout souvenir est, je crois, d'aller au Christ et d'être rendu parfait en lui. Par conséquent, je prie Dieu de nous accorder toujours la bénédiction de nous souvenir toujours, surtout de son Fils parfait, et de ne pas périr. Je témoigne avec reconnaissance de la nature divine et du pouvoir salvateur du Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
C'est un grand honneur et une grande bénédiction de participer au service de reconsécration de ce grand édifice, le tabernacle de Salt Lake City, qui se trouve à l'ouest du temple. Nous remercions tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part aux grands travaux qui ont été faits dans ce bâtiment. Nous remercions particulièrement l'Épiscopat président, les frères H. David Burton, Richard C. Edgley et Keith P. McMullen, pour leur excellente gestion de la modernisation et de la rénovation du tabernacle. De chers souvenirs d'enfance me lient à ce tabernacle. J'y ai été baptisé. Quand je suis devenu diacre, mon père m'y a amené assister à la réunion générale de la prêtrise. Nous arrivions 15 minutes en avance et nous pouvions facilement trouver une place au balcon. Dans les premiers temps de l'Église, les deux seuls bâtiments construits expressément pour le culte ont été les temples de Kirtland et de Nauvoo. Tous deux ont été construits selon la Révélation. Le premier bâtiment construit par l'Église, comme lieu de réunion dont nous ayons connaissance, devait aussi être utilisé comme école. Il a été construit de rondins en 1831 au Missouri. Le temps que le temple de Kirtland soit consacré en 1836, il était déjà trop petit pour contenir tous les saints qui voulaient assister à la consécration. Joseph Smith, le prophète, a écrit avec regret que le bâtiment ne pourrait en recevoir plus. Cependant, comme les violences contre les saints et leurs dirigeants s'accentuaient à Kirtland, le gros de l'Église est parti en 1838 au Missouri, en abandonnant ce précieux bâtiment. Le temple de Nauvoo suivait essentiellement le même modèle que le temple de Kirtland en ce qui concerne les salles d'assemblée du rez-de-chaussée et du premier étage.
Cependant, avant l'achèvement du temple de Nauvoo en 1846, les saints se réunissaient dehors, souvent près du temple, pour écouter Joseph et les autres dirigeants de l'Église parler. Parfois, des milliers de personnes assistaient à ces réunions. Comme George A. Smith l'a fait remarquer non sans humour, du temps du prophète Joseph, c'est à l'extérieur que le mormonisme s'épanouissait le mieux. Cela était dû au fait que nous n'avons jamais érigé de bâtiment assez grand pour recevoir les saints avant la mort du prophète. De temps en temps, les intempéries interrompaient ces services à l'extérieur et les orateurs et l'assemblée manquaient de confort. Joseph S. Smith, qui se rappelait bien le manque de confort de ces réunions en plein air tenues près du temple de Nauvoo, a dit « Mon premier souvenir d'un lieu de culte, c'est à Nauvoo. C'était dans un petit bouquet d'arbres près de l'emplacement du temple. En compagnie de ma mère, j'ai écouté ici des hommes tels que Brigham Young, Heber C. Kimball, Orson Hyde, Parley P. Pratt, Orson Pratt, le prophète Joseph et le patriarche Hiram. Je me rappelle très bien avoir assisté à une réunion dans le bosquet. On avait amené un chariot devant l'assistance et Joseph, le prophète, se tenait sur le chariot et parlait quand il a commencé à pleuvoir. Une ou deux personnes se sont levées pour tenir des parapluies au-dessus de lui, pour le protéger de l'eau. Beaucoup de gens n'avaient pas de parapluie et c'était très agaçant et désagréable de rester assis là. Mais je me rappelle très bien, quoique n'étant qu'un petit garçon, que personne ne quittait l'endroit tandis qu'il parlait. Avant sa mort, Joseph, le prophète, a ordonné qu'un tabernacle de toile soit construit pour abriter les saints lors des grandes réunions. En 1845, alors que le temple était en voie d'achèvement, Orson Hyde, du Collège des Douze, a été renvoyé dans l'Est pour lever des fonds et acheter environ 4000 mètres de toile pour construire ce que Brigham Young a appelé le tabernacle de l'Assemblée de Sion. Dans une lettre écrite le 30 août 1845, Orson Pratt décrit l'endroit proposé et la conception envisagée pour le tabernacle de toile. On prévoit d'ériger un tabernacle de toile devant et en annexe au temple à l'ouest. La forme de ce tabernacle sera celle d'une ellipse. Sa superficie sera suffisante pour contenir 8 à 10 000 personnes. Ces sièges s'échelonneront graduellement les uns par rapport aux autres en forme d'amphithéâtre. Le lendemain, les frères ont commencé à débrasser le sol pour la construction du tabernacle de toile. Cependant, à cause des persécutions intenses de leurs ennemis, les saints ont dû quitter Nauvoo et le tabernacle de toile n'a jamais été construit. Alors, en 1846, Orson Hyde a chargé la toile dans des chariots et s'est mis en route vers l'ouest avec elle. Certains ont supposé que l'on a fait bon usage de la toile pour des choses telles que des tentes, des auvents et des bâches de chariots pour les saints dans l'exode vers la vallée du lac Salé. Le tabernacle terminé à Temple Square à Salt Lake City a des dimensions qui ressemblent en gros au tabernacle de toile envisagé pour Nauvoo, et comme ce dernier, il est également situé juste à l'ouest du temple. Comme pour d'autres choses, telles que la grande migration vers l'ouest, Joseph Smith a eu la vision d'un grand tabernacle et Brigham Young en a fait une réalité. Ainsi, le tabernacle prévu pour Nauvoo, bien qu'il n'y ait jamais été construit, a été le prototype de ce bâtiment historique. Quand j'étais petit, nous écoutions la conférence générale à la radio. Maintenant, avec l'utilisation des satellites et du matériel électronique moderne, nous émettons depuis Salt Lake City dans le monde entier simultanément, en utilisant des liaisons satellites avec des bâtiments partout dans le monde. C'est le résultat de l'inspiration donnée aux frères pour répondre aux besoins des gens de notre époque. C'est un bon exemple de la façon dont le Seigneur nous permet de répondre aux besoins des membres de l'Église. Je témoigne que le Seigneur continuera à révéler à ses serviteurs les moyens de satisfaire aux besoins de tous les membres dans une Église toujours grandissante.
Je suis reconnaissant que ce bâtiment magnifique ait été renforcé et rénové pour que l'on puisse continuer à l'utiliser pour instruire et édifier les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
My brothers and sisters,
mes frères et sœurs, qui êtes ici dans le tabernacle et qui écoutez par divers moyens dans le monde entier, c'est pour moi une joie d'être devant vous une fois de plus dans cet édifice magnifique. Dans ce cadre, on ne peut s'empêcher de ressentir l'esprit des premiers saints qui ont construit ce beau lieu de culte, ainsi que tous ceux qui, pendant des années, se sont efforcés de le préserver et de l'embellir. Récemment, je pensais aux nombreux événements importants de ma vie qui sont associés au tabernacle de Salt Lake City. Bien qu'il y en ait beaucoup trop pour que je les mentionne tous aujourd'hui, je vais vous parler de quelques-uns. Je me rappelle quand, à 8 ans, j'approchais du moment du baptême. Ma mère m'a parlé du repentir et du sens du baptême. Puis, un samedi de septembre 1935, elle m'a emmené en tramway au baptistère du tabernacle qui, jusqu'à récemment, se trouvait dans ce bâtiment. À cette époque, il n'était pas coutume, comme maintenant, qu'un père baptise ses enfants, puisque l'ordonnance était généralement accomplie le samedi matin ou après-midi, et que beaucoup de pères travaillaient, comme tous les jours. Je me suis habillé en blanc et me suis fait baptiser. Je me rappelle ce jour-là comme si c'était hier, et la joie que j'ai eue d'avoir fait cette ordonnance. Les années ont passé, et surtout quand j'étais évêque, j'ai été témoin de nombreux autres baptêmes accomplis dans les fonts baptismaux du tabernacle. Chaque occasion a été spéciale et inspirante, et chacune m'a servi de rappel de mon baptême. En avril 1950, Frances, ma femme, et moi assistions à la session du dimanche après-midi de la conférence générale qui se déroulait dans ce bâtiment. Président George Albert Smith était alors président de l'Église, et en concluant la conférence, il a prononcé un discours inspirant et puissant sur la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais avant la fin de ses propos, il a lancé un avertissement prophétique. Il a dit, et je cite, « Sous peu, des calamités vont s'abattre sur la famille humaine s'il n'y a pas vite de repentir. Sous peu, des gens disséminés sur toute la surface de la terre mourront par millions à cause de ce qui viendra. » Ces paroles étaient alarmantes car elles venaient de la bouche d'un prophète de Dieu. 2 mois et demi après cette conférence générale, le 25 juin 1950, la guerre a éclaté en Corée. Cette guerre a causé la mort de 2,5 millions de personnes. Cet événement m'a poussé à réfléchir à la déclaration que Président Smith avait faite quand nous étions assis dans le tabernacle ce jour de printemps. J'ai assisté à beaucoup de sessions de conférences générales dans le tabernacle, et j'ai toujours été édifié et inspiré par les paroles des frères. Puis, en octobre 1963, David O. McKay m'a invité dans son bureau et m'a appelé comme membre du Collège des 12 apôtres. Il m'a demandé de garder confidentiel cet appel sacré en n'en parlant à personne d'autre que ma femme et d'être présent à la conférence générale au tabernacle le lendemain où on lirait mon nom à haute voix. Le lendemain matin, je suis entré dans le tabernacle sans savoir exactement où m'asseoir. Étant membre du comité de l'enseignement au foyer de la prêtrise, j'ai décidé de m'asseoir parmi les membres de ce comité. J'ai remarqué l'un de mes amis, Hugh Smith, qui était aussi membre du comité de l'enseignement au foyer de la prêtrise. Il m'a fait signe de venir m'asseoir à côté de lui. Je ne pouvais rien lui dire de mon appel, mais je me suis assis. pendant la session, les membres du Collège des 12 apôtres ont été soutenus. Et bien sûr, on a lu mon nom. Je crois que la plus longue marche de ma vie a été d'aller de l'Assemblée jusqu'à l'estrade. Cette conférence remonte à près de 44 ans. Jusqu'à l'an 2000, année de la consécration du centre de conférence, j'ai eu l'honneur de prononcer 101 discours de conférence générale de la chaire de ce bâtiment, sans compter ceux prononcés lors de conférences générales d'auxiliaires ou lors d'autres réunions ayant eu lieu ici. Mon discours d'aujourd'hui porte le total à 102. Pendant des années, j'ai eu ici de nombreuses expériences spirituelles. Pendant mon discours de la conférence générale d'octobre 1975, je me suis senti poussé à m'adresser à une petite fille aux longs cheveux blonds qui était assise au balcon. Juste là, j'ai attiré l'attention de l'assistance sur elle et j'ai ressenti une facilité d'élocution qui m'a témoigné que cette petite fille avait besoin du message que j'avais en tête à propos de la foi d'une autre jeune fille. À la fin de la session, je suis retourné à mon bureau et j'ai trouvé une jeune fille du nom de Misty White, accompagnée de ses grands-parents, et d'une tante qui m'attendait. En les saluant, j'ai reconnu en Misty la fillette du balcon à qui j'avais adressé mes propos. J'ai appris qu'alors qu'elle allait bientôt avoir 8 ans, elle ne parvenait pas à décider si elle allait se faire baptiser. Elle pensait qu'elle aimerait le faire, et ses grands-parents, chez qui elle habitait, le voulaient aussi. Mais sa mère, non pratiquante, lui conseillait d'attendre d'avoir 18 ans pour prendre cette décision. Misty avait dit à ses grands-parents, « Si nous allons à la conférence à Salt Lake City, peut-être que notre Père Céleste me fera savoir ce que je dois faire. » Misty, ses grands-parents et sa tante étaient venus de Californie à Salt Lake City pour la conférence, et ils avaient pu obtenir des places dans le tabernacle pour la session du samedi après-midi. Comme aujourd'hui, c'est là qu'ils étaient assis. Quand mon attention a été attirée vers Misty et que j'ai décidé de m'adresser à elle. Dans la suite de notre conversation après la session, la grand-mère de Misty m'a dit, « Je crois qu'il y a quelque chose que Misty aimerait vous dire. » La gentille petite fille m'a dit, « Frère Monson, pendant que vous parliez à la conférence, vous avez répondu à ma question. Je veux me faire baptiser. » La famille est rentrée en Californie et Misty s'est fait baptiser et confirmé membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Toutes les années qui ont suivi, Misty est restée fidèle à l'Évangile de Jésus-Christ. Il y a 14 ans, j'ai eu l'honneur d'accomplir son mariage au Temple avec un bon jeune homme, et ils élèvent ensemble 5 beaux enfants et en attendent un autre. Mes frères et sœurs, c'est un honneur pour moi d'être à nouveau à la chaire du tabernacle. J'ai de très bons souvenirs attachés à ce bâtiment. Il fait partie de ma vie, une partie que je chéris. Cela a été pour moi un honneur et une joie de lever le bras à angle droit pour soutenir 9 présidents de l'Église à la lecture de leur nom. Ce matin, je me suis joint à vous pour soutenir à nouveau notre prophète bien-aimé, Gordon Hinckley. C'est une joie et un honneur de servir à ses côtés, ainsi qu'avec le président Faust. À l'occasion de la consécration de ce bâtiment aujourd'hui, prenons l'engagement de consacrer à nouveau notre vie à l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, qui a accepté de si bon gré de mourir pour que nous puissions vivre, que nous puissions marcher dans ses traces. Chaque jour, je prie humblement au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you.
Nous rappelons aux frères que la réunion générale de la prêtrise commencera au centre de conférence ce soir à 18h, heure d'été de Salt Lake City. La diffusion nationale de l'émission du Cœur du Tabernacle aura lieu demain matin de 9h30 à 10h. Heure d'été de Salt Lake City. La session de conférence du dimanche matin suivra immédiatement. Nous remercions le chœur du tabernacle, la belle musique qu'il a interprétée cet après-midi, et toutes les personnes qui ont participé. Je vais maintenant avoir le plaisir de vous adresser la parole. Après mon discours et la prière de consécration, le chœur terminera la session en chantant l'Esprit du Dieu Saint. Après le cantique, Conrad Schulz, des 70, fera la prière de clôture.
This afternoon, my brothers and sisters,
mes frères et sœurs, nous sommes rassemblés cet après-midi à la deuxième session de la conférence générale. Bâtiment a connu subi de grandes transformations.
The great stone pillars which constitute its outside walls have been greatly strengthened and fortified. The roof has been strengthened.
Le toit a été consolidé par l'ajout de fermes en acier en remplacement de la toiture. Les changements de ce bâtiment ne sont pas une première. Peu après sa création, déjà, il a été modifié. À l'origine, il n'y avait pas de balcon. Il a fallu en ajouter un. Au cours de ces nombreuses années, il était un lieu d'assemblée unique et merveilleux. De nombreux hommes et femmes ont parlé ici, témoignant du rétablissement de l'évangile de Jésus-Christ. Depuis l'époque de Brigham Young jusqu'à la nôtre, chaque prophète a parlé de cette chair. D'autres hommes et femmes renommés ont parlé, dont plusieurs présidents des États-Unis. Le tabernacle a accueilli les arts et la culture de notre communauté. L'Utah Symphony a utilisé ce lieu au début pour se produire. De grands spectacles artistiques ont été donnés ici, comme le Messi et le Tanner Gift of Music. Les funérailles d'hommes et de femmes éminents sont déroulées ici. Cela a été vraiment un joyau pour notre communauté durant toutes ces nombreuses années. C'est un édifice particulier, le seul en son genre dans le monde entier. Il a été construit il y a près d'un siècle et demi, au jour de la pauvreté de notre peuple. C'était littéralement un tabernacle bâti dans le désert. Le temple était loin d'être achevé en ce temps-là. Les personnes qui ont construit le tabernacle l'ont fait avec foi, ainsi qu'avec leurs connaissances rudimentaires en architecture. Les sceptiques, qui sont toujours nombreux, ont prédit qu'au moment où l'on enlèverait l'échafaudage, le toit s'effondrerait. Ça n'est pas arrivé. Il est resté en place dans le beau temps et les tempêtes tout au long de ces années. Il est devenu connu dans le monde entier comme le lieu où le chœur du tabernacle mormon se produit, dont l'émission hebdomadaire de radio a été entendue depuis plus longtemps que toute autre émission, pendant plus de 75 ans, depuis 1929. Maintenant, chaque jour du sabbat, Music and the Spoken Word sera diffusé à nouveau au monde depuis ce tabernacle, au carrefour de l'Ouest. Il accueillera à nouveau le chœur du tabernacle et l'orchestre d'Apple Square, ainsi que de nombreux autres spectacles et projets. Il sera utilisé pour des conférences de pieux, des conférences publiques, des concerts et d'autres activités. Le Millennial Star, publié en Angleterre dans son numéro du samedi 9 octobre 1975, rapporte que John Taylor a fait une prière de consécration lente, longue et détaillée de ce bâtiment sacré, quelques années après son entrée en service. À présent, je vous invite tous, à la fin de cette réunion, à vous joindre à moi et à fermer les yeux durant la prière de reconsécration et de dédicace. Ô Dieu, notre Père éternel, la tête baissée, nous venons à toi avec respect en cette occasion historique. Nous sommes rassemblés dans ce magnifique tabernacle, rénové et remis en état à présent, après plus d'un siècle d'utilisation, par l'autorité de la Sainte Prêtrise et au nom de Jésus-Christ. Nous te consacrons ce lieu, nous te reconsacrons ce lieu, le tabernacle de Salt Lake City, à toi et à ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, afin que pendant de nombreuses années, ton peuple puisse s'y rassembler pour de nombreuses raisons. En cette occasion, nous repensons à Joseph, le prophète qui est un instrument entre tes mains de le rétablissement de l'évangile éternel du Seigneur Jésus-Christ avec tous les dons, l'autorité et les bénédictions qui l'accompagnent. Nous te remercions de la grande foi de notre peuple qui a été chassé de Nauvoo et qui, dans d'atroces souffrances, entre autres de nombreux décès, a traversé l'Iowa pour établir Winter Quarters et par la suite a entrepris la longue marche de Winter Quarters jusqu'à cette vallée du Grand Lac Salé. Nous te remercions de la direction inspirée du président Young, qui, n'ayant jamais vu cette vallée auparavant, à part en vision, a conduit notre peuple ici. Il ne connaissait pas grand-chose de la région. Il ne connaissait ni le sol, ni le climat, ni l'eau, ni d'autres éléments. Dans ce lieu désert, ces pionniers ont labouré, planté, irrigué, cultivé et moissonné les fruits de leur labeur. Et ils ont fondé une ville qui est devenue grande à présent et compte de nombreuses centaines de milliers d'habitants. À une époque, la plupart des saints des derniers jours vivaient ici, dans cette vallée, et dans les alentours où des colonies étaient établies. Maintenant, cette œuvre a grandi et s'est répandue sur la terre, jusqu'à avoir plus de membres à l'extérieur qu'à l'intérieur de ce pays. Cher Père, continue de faire prospérer ton œuvre. Fais-la grandir et se développer. Bénis les personnes qui paient la dîme et les offrandes et rend ainsi possible sa croissance et son expansion. Qu'elle puisse aller de l'avant et remplir toute la terre, comme la pierre détachée de la montagne, sans le secours d'aucune main, était destinée à rouler et remplir la terre. Veuille susciter des dirigeants forts dans les générations à venir. Qu'on ton peuple se réjouisse et trouve un grand bonheur au service de ton œuvre. En conséquence, nous consacrons, reconsacrons et dédions ce bâtiment sacré au nom sacré de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen.
Choir will sing, and the benediction will be offered by Brother Schultz. Thank you, brothers and sisters.
Merci, mes frères et sœurs. Nous allons maintenant entendre la prière de Frère Schultz.
Our most righteous Heavenly Father,
notre très bon Père Céleste, c'est avec beaucoup d'émotion et d'amour et de gratitude que nous nous présentons devant toi à la fin de cette session de conférence. Nous exprimons notre gratitude pour les mots d'histoire et les mots qui ont prononcé ton évangile que nous avons entendu de ce jour et qui sont maintenant ajoutés aux milliers de témoignages prophétiques qui ont été donnés dans les années passées. Nous exprimons tout notre amour pour président Hinckley et te demandons une bénédiction particulière pour lui, qu'il soit réconforté et qu'il puisse continuer à nous diriger, à rester avec nous, de diriger ce royaume qui est le tien. Alors que nous sommes bientôt dans la saison de Pâques, nous exprimons notre amour pour toi, pour le Sauveur Jésus-Christ, pour les principes et pour sa direction et pour son expiation, et particulièrement pour la résurrection qui donne l'espérance à toute l'humanité. Maintenant, nous te prions que nous puissions continuer et que chacun d'entre nous, avec nos familles, notre famille, nous puissions faire tout ce que nous pouvons pour continuer à bâtir ton royaume dans ces derniers jours. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the
177th. Vous venez d'assister à la 177e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Communications. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.